Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat que au XXIe siècle, il y a des souffrances. Les hommes et les femmes souffrent un peu dans leur rapport relationnel. C'est, me semble, assez visible dans notre société. Et il y a des luttes entre les hommes et les femmes, des luttes pour l'égalité, des luttes de différentes façons. Et ces luttes, bien sûr, ça a des effets, comme toutes les guerres et les luttes, ça a des effets dommageables sur les hommes et sur les femmes. Alors, est-ce que le problème est si simple? Certainement pas, parce que s'il était simple, sans doute on aurait trouvé des solutions depuis longtemps. Nous autres chrétiens, nous savons que ce problème remonte à fort loin, fort longtemps, dans les temps anciens, dans le jardin d'Éden, où Ève s'est faite séduire par le serpent et ensuite elle s'est fait accuser par Adam. Et ce drame qui s'est passé à ce moment-là n'est pas réellement, laisse toujours des traces chez tous les hommes, chez toutes les femmes. Et on a ce problème qui se reproduit, hélas, même peut-être dans nos vies. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, bien sûr. On va donc poursuivre dans ce texte de 1 Corinthiens 11. Alors, je vous demanderai toute votre indulgence. Parce que je vais aborder des... aller sur un terrain qui n'est pas bien stable, hein. Des fois on marche, on met les pieds, mais on ne sait pas si on est sur du dur ou si on est sur un terrain qui on va s'enfoncer. Et là, c'est le cas pour moi dans cet exercice. Donc, je vais faire appel à des mots, à des images que on n'a pas l'habitude d'utiliser peut-être dans l'Église, mais je vous demanderai de chercher non. Pas vous arrêter aux mots et aux images, de me chercher les sens, et sachant que ce sera de toute façon un travail qui sera imparfait. Hein. Alors, notre fameux verset, donc ça c'était le texte de 1 Corinthiens 11 qu'on avait vu la dernière fois, c'était le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est la tête, alors le chef ou la tête de tout homme. L'homme est la tête de la femme et Dieu est la tête de Christ. Il y a ce mot tête dans le texte grec, c'est le mot tête avec ici un sens figuré. Et on a vu que c'était bien difficile de saisir ce sens figuré du mot tête. Et ce verset est placé tout en haut de notre texte et donc je pense que l'apôtre Paul a voulu un petit peu... vous faire comprendre dans quel contexte il parlait ici. Donc, Christ est la tête de tout homme, l'homme est la tête de la femme. Je vais prendre la première partie du verset, de la déclaration de Paul. Et là, j'ai été chercher de la matière dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, de la Septante, ce qui donne beaucoup plus de référence et beaucoup plus on retrouve beaucoup plus souvent ce mot tête. Et donc là, j'ai eu quelques informations supplémentaires. Alors, il prend souvent le sens d'extrémité. On a la tête des montagnes qui apparaissent après le déluge, l'extrémité des montagnes. Les hommes ont construit une tour dont la tête devait toucher au ciel, dont l'extrémité devait toucher au ciel. La tête de l'échelle de Jacob touchait le ciel, l'extrémité, hein, touchait le ciel. Et les chapiteaux dans le temple de Salomon étaient à l'extrémité des colonnes et les barres qui transportait l'arche dans le temple de Salomon, se voyait depuis le lieu saint, on voyait la tête, on voyait l'extrémité des barres. Donc, à travers cette extrémité, ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est qu'il n'y a pas dans le mot tête l'idée de domination. Il n'y a pas cette idée-là. Et il y a un autre cas d'emploi également, dans le psaume 18-43, ou psaume de David, où il exprime ainsi, tu me délivres des dissensions des peuples, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais t'as servi ou me sert. Et un petit peu l'autre verset d'Ésaïe, avec une double, on retrouve une chaîne comme on retrouve dans notre texte des Corinthiens. Damas est la tête de la Syrie, et Retsin, le roi de Damas, est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm et le fils de Remalia est à la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et là, dans le contexte de Isaïe, on est le roi de Damas et le roi de Samarie se sont liés ensemble pour venir menacer le royaume de Juda. Et le royaume de Juda était effrayé par ces deux pays qui le menaçaient, qui s'unissaient pour le menacer. Et là, Ésaïe dit en fait, à la tête de ces pays, de toute façon, ce sont des hommes, ce sont que de simples hommes. Et il ne faut pas en avoir peur. Alors, on a donc la décision de roi, hein. On peut voir un roi qui décide quelque chose et il transmet sa vision, ce qu'il veut faire à la capitale, qui elle-même le retransmet à tout le pays. Et tout le pays, et chacun se met en marche dans la direction d'aller faire aller asservir le royaume de Juda. C'est un petit peu la façon dont ce verset, me semble-t-il, présente les choses. Alors, comment comprendre notre verset, donc ? Christ à la tête de tout homme, l'homme est à la tête de la femme. On peut voir, donc, ce que je vous propose, hein. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, il va transmettre sa vision, sa politique à l'homme, et l'homme la transmet à son tour à la femme. Et donc, dans le sens d'avoir un objectif là-dedans, il y a quelque chose à faire. Hein. C'est pas, il y a un projet derrière tout ça. Et donc, Christ communique le projet, ou j'emploie le mot politique, c'est-à-dire tout un ensemble, à l'homme qui le retransmet à la femme, et tout le monde va dans la même direction. Alors, l'illustration qu'on peut prendre, c'est de le jardin d'Éden, hein, la politique que l'homme a reçue du Dieu trinitaire, c'est cultiver, garder le jardin, pouvoir manger de tous ses fruits, sauf un. Et donc là, il a un cadre dans lequel il va évoluer avec des choses à faire et avec un cadre dans lequel ça se déroule. Et il communique cela à sa femme. C'est lui qui a la responsabilité de transmettre l'information à sa femme, et c'est ce que Adam a fait. Alors, si on prend maintenant la deuxième partie du verset, Dieu est la tête de Christ. Bon, il m'a semblé qu'ici, c'est Dieu est la tête de Christ, mais on fait appel un petit peu à ce qu'on sait de la Trinité. Alors, la Trinité, c'est difficile à pénétrer, ce mystère, hein, 3 égale 1. C'est quelque chose que notre esprit ne peut pas saisir complètement, parce que ça touche à l'essence même de Dieu. Néanmoins, il y a des informations que nous donne la parole de Dieu. Donc ça, c'est le symbole d'Anathase, c'est un père de l'Église. Alors, si on lit Jean chapitre 1, verset 1 à 2, l'introduction de Jean, si vous voulez attraper. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et on voit que cette parole, après, plus loin dans le texte, s'applique au Christ. Donc, des personnes qui sont distinctes, Jean chapitre 17, verset 24 également. On lit ceci, c'est des passages qu'on connaît bien. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père et Fils, partagez une gloire et vivez dans un amour, une unité. Hein. Mais ils sont, on voit qu'ils sont distinctes, des personnes qui sont également pleinement Dieu. Bon, que le Père soit pleinement Dieu, on le comprend facilement. Pour le Fils, ça a été plus long à l'Église pour saisir cela. Alors le texte d'Ésaïe, le prophète Ésaïe est un passage qu'on connaît bien hein, dans Ésaïe chapitre 9 qui est relatif à la naissance de Jésus, à l'incarnation. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc ce passage souligne la divinité de Dieu, de Jésus. Il y en a d'autres également, hein, dans la fin de l'évangile de Jean. Vous savez, Jean raconte la scène où Thomas, qui ne croyait pas, est invité à placer sa main dans le côté, dans les doigts, main de Jésus, et de croire qu'il était vraiment ressuscité. Et là, Jésus lui dit, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, en s'adressant à Jésus, et Jésus ne le reprend pas du tout, au contraire, il approuve un petit peu, l'apôtre Jean approuve ce texte, heureux celui qui a cru, et l'apôtre Jean rajoute, tout ce qui a été écrit dans ce livre vous amène à croire. Et donc là, ça montre bien la divinité de Jésus. Donc, deux personnes distinctes, mais qui sont pleinement Dieu. Et en même temps, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein, Deutéronome 6, chapitre 4. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Hein, ça, c'est un des fondements de la Bible. Jésus, quand il a discuté dans son ministère terrestre, vous savez, on lui... nous avons Abraham pour père, etc. Et Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, qui est le nom de Dieu lui-même. Et Jésus, en 8:58, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc père et fils sont de la même, on dit de la même essence, ils partagent les mêmes attributs. Là, il y a une liste d'attributs que les théologiens ont dégagé de la Bible. Et donc, ils sont égaux. Ils sont égaux, mais toutefois, ils ont eu, chaque membre de la Trinité a eu une, dans le plan du salut, pour sauver les hommes, chacun a eu une mission un petit peu différente. Hein, on sait que le Père a envoyé le Fils, et le Fils a accompli le salut à la croix, Jésus a dit tout est accompli, c'est celui qui a accompli le salut. Et le Saint-Esprit donc qui a appliqué ce salut aux croyants ensuite. Et donc cette idée de d'avoir des missions différentes qui ressortent également. Donc une fois qu'on est équipé un petit peu de ces rappels, comment l'appliquer à notre dessein, l'enrichir. Alors on a Dieu qui dans la distinction de Dieu-Christ, ici on a Christ, ça rappelle la mission et l'humanité de Jésus-Christ quand il était sur la terre, et donc et où il était en communion avec son Père, et il recevait de lui et il accomplissait sa volonté. Et donc il y a une unité là-dedans dont Jésus a parlé quand il était sur la terre. Et donc pour l'homme et pour la femme, donc il y a unité de l'homme et de la femme, et une mission également qu'on peut voir qui sera peut-être différente l'un par rapport à l'autre. Voilà un petit peu ce petit dessin pour illustrer bien modestement ce verset. Alors qu'est-ce qu'on peut appliquer, qu'est-ce qu'on peut comment utiliser maintenant tout cela? Comment cette chaîne, hein, Christ, l'homme et la femme, comment ça va se décliner dans l'Église? Alors, on l'a vu la dernière fois en ce qui concerne le culte. Dans le culte, donc, on a vu que l'homme et la femme ont un accès auprès de Dieu. Ils peuvent prier Dieu dans le culte, et la femme peut prophétiser, elle peut annoncer des choses qui viennent de Dieu. Elle a la liberté, donc il y a cette question d'égalité entre l'homme et les femmes, comme il y a une égalité dans la Trinité. Mais toutefois, il y avait un rappel comme quoi elle portait une coiffe pour rappeler ce lien ici qu'il y a entre Christ et l'homme, Christ est la tête de l'homme, et donc le port de la chevelure ou du voile rappelait, donc on avait vu avec les anges, hein, c'était pas forcément très clair, mais bon, c'était quelque chose qui était pratiqué en tout cas dans la première église, qu'il fallait que en prophétisant la femme porte un rappel de cette notion de tête qui existait. En ce qui concerne l'évangélisation, comment on peut qu'est-ce qu'on peut traduire de cela? Ben c'est que les hommes ont la responsabilité de bien recevoir cette politique, hein, que le Seigneur donne en ce qui concerne le travail de diffusion de l'Évangile. Et donc, bien sûr, c'est pour faire quelque chose. Et donc, l'homme a la charge, après, dans le sein de l'Église, de diffuser tout cela à la femme. Et les deux ensemble, donc, vont se mettre au travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux, hommes et femmes, sont associés dans ce travail-là. Alors, les difficultés, bien sûr, auxquelles on pense, c'est que les femmes ne soient pas d'accord avec ce que voient les hommes. Et je crois que c'est surtout, ça va se produire surtout si elles ne voyaient pas que que l'homme parle de quelque chose qui vient de Christ. Et si l'homme à la plaine bien raccordée à Christ dans le message, dans ce qu'il veut faire passer, ben, la femme, elle va adhérer naturellement. Mais si elle n'est pas convaincue que ça vienne de Christ, bien sûr, l'adhésion ne va pas être là. Alors, quels sont les dangers? Mais bien sûr, le danger, ben, j'en ai parlé, c'est qu'on ne soit pas, il n'y a pas cette liaison qui existe, hein. Il y a des hommes qui font, décident des choses, qui, voilà, qui voudraient entraîner les femmes derrière, mais il n'y a pas cette connexion-là. Donc, ils sont pas crédibles, ça ne fonctionne pas. Ne pas être raccordé à la tête, Christ, et puis il se passe rien, en fait, l'Église ne fait rien. Il peut y avoir un blocage également, c'est que l'homme ne communique pas ici à la femme, hein, où il garde les choses pour lui. Et là, on tombe un petit peu dans la religion, hein, on se construit un modèle dans lequel on va fonctionner, mais on oublie de le recevoir de Christ, on oublie de le transmettre, et ça marche pas du tout, et on est dans la religion. Ou bien on vérifie pas de ce qu'on fait, est-ce que c'est bien conforme à la politique de Christ, est-ce que c'est bien dans le cadre. Je pense que ça peut nous être arrivé quand on faisait la fête de Noël, par exemple, ou la fête de la musique ensemble. Est-ce que c'était vraiment dans la cible? Est-ce que c'était vraiment dans le mandat, le cadre, la politique que Christ nous a communiqué ou nous communique? Ou bien on peut imaginer des projets qui ne concernent que les hommes, puis les femmes ne sont pas concernées, ou que les hommes ne sont pas concernés, ce qui ne me semble pas correspondre à ce que nous dit ce verset ici, où les hommes et les femmes sont impliqués avec cet arrière-plan de leur égalité, l'homme étant l'image de Dieu. Comment ça peut est-ce que ça peut se décliner ailleurs, dans d'autres domaines? Certainement, hein, dans le couple aussi, hein, le couple, c'est l'union de l'homme et de la femme, vous savez, et là les images changent un petit peu. La tête de l'Église, c'est Christ, et la tête de la femme, c'est l'homme, avec en arrière-plan Christ et l'Église. Donc quel est, je pense, dans le couple, s'il y a un projet de vie, est-ce que ce projet de vie est bien, entre bien dans la politique que Christ demande? Et donc là, l'homme, il va avoir ce rôle-là de proposer à son épouse un projet de vie qui soit conforme à ce que Christ fait descendre comme politique. Il est la tête. Qu'est-ce qu'il Christ fait descendre, et d'avoir un projet qui soit conforme. Et donc il faut recevoir le projet et le communiquer droitement. Et donc si le projet vient de Christ, bien sûr il va y avoir adhésion de la femme à ce projet-là, et chacun va avoir donc quelque chose qui en découle dans leur vie à faire ensemble, etc. En ce qui concerne le plan de salut dont je parlais tout à l'heure, bon, on a vu, faisons l'homme à notre image. Les théologiens pensent qu'il y a eu, quand il s'agit de décider comment on allait sauver l'homme, qu'est-ce qu'il a être appliqué, ça a été une décision du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est pas une décision qui était partagée, et chacun a eu une mission là-dedans. Donc je pense que c'est très important d'avoir ça en arrière-plan pour le fonctionnement de l'homme et la femme qui décident ensemble finalement ce qu'ils vont faire. Et donc les dangers sont les mêmes, hein, dans le projet de vie, les dangers sont les mêmes que pour l'Église, hein, de pas le faire ensemble, ou qui des mauvaises connexions, des dysfonctionnements. Mais là, ce verset donc nous rappelle cet ordre et le fait que ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Les choses à faire viennent du Seigneur Jésus-Christ et les hommes ont un rôle particulier à jouer et une responsabilité également qui va avec toute particulière en ce qui concerne ce qu'ils auront reçu. Que faire quand on est hors du cadre? Ben, il faut sortir du déni, hein. C'est toujours difficile, vous le savez, de sortir d'un fonctionnement dans lequel on est et qui correspond pas. Voilà, on peut être, une église peut être tombée dans un fonctionnement religieux et on fait les choses parce qu'on les a toujours faites et il n'y a plus cette connexion. Qu'est-ce que Christ attend de nous aujourd'hui dans notre contexte? Comment on doit vivre l'église aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment connecté au Seigneur? On peut avoir également à l'église des activités qui sont plutôt séculières, qui correspondent plus du tout à ce que dans la politique du Seigneur. Et donc c'est difficile de s'extraire de ça parce que c'est quelque part on est dans une zone de confort mais c'est nécessaire de sortir du déni, dénoncer ce qui va pas. Je pense qu'il faut savoir mettre le doigt, c'est ça qui va pas. Il faut l'exprimer à un moment donné, il faut avoir le courage de le faire et se mettre dans la bonne direction. Repartir dans la bonne direction. Et la dernière chose, bien sûr, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Avoir foi dans sa grâce, dans son pardon, dans sa restauration et dans la volonté de Dieu que vraiment nous faire avancer. Il est vraiment venu pour nous sauver. Et pas pour nous laisser un chemin. Donc, il est de notre côté. Il est de notre côté. Je vais conclure maintenant. Alors, est-ce que on va arriver à l'église de Figeac à avoir ces relations harmonieuses entre les hommes et les femmes que nous sommes et qui constituent le corps de Christ? Est-ce qu'on va ou est-ce qu'on va être dans les frictions et dans les frustrations qui sont souvent pas exprimées? En tout cas, c'est un beau défi hein, que que de pouvoir refléter dans l'Église cette harmonie qui peut exister, qu'on pressent dans la Trinité. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut voir les choses. Alors ce serait super bien sûr qu'on y arrive, on n'est pas très nombreux. Et les personnes qui nous voient vivre, qui voient ce qui se passe dans l'église, quand ils viennent au culte, ou que quand on fait des activités dehors, d'évangélisation ensemble, hommes et femmes, côte à côte, que les gens puissent voir, c'est vrai, ces gens-là, ils vivent des relations entre eux qui sont vraiment superbes. Et moi, j'aurais envie vraiment de connaître ça. Et ça m'intéresse, je veux en savoir plus, hein, d'être ce sel et cette lumière à travers les relations que l'on a entre hommes et femmes. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est un vrai défi parce qu'il y a beaucoup de vous le savez hein, de lutte comme je le disais dans notre société hein. Et donc la politique de notre Seigneur soit connue, qu'elle soit recherchée hein, et que toute la gloire remonte à notre tête hein, qui est le Seigneur qui est notre Dieu. Voilà un petit peu. J'arrive à la fin de ce que j'avais préparé. J'espère que les idées sont passées. J'espère que vous pensez que ça vient quand même de la parole de Dieu, au-delà des dessins, au-delà des mots qui sont utilisés. Et en toute humilité, je sais que c'est pas parfait, bien entendu. Je vais prier. Seigneur, Père Céleste, je veux m'humilier devant toi, devant ce que tu es. Tu as créé l'homme et la femme à ton image, à ta ressemblance, tu les as créés, mâles et femelles. Seigneur, ces choses-là nous dépassent, comme tout ce qui te concerne nous dépasse. Il nous est impossible de le concevoir, de mettre des mots, des images dessus. Mais Seigneur, nous voulons croire que tu es celui qui est Dieu et qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous amène, Seigneur, qui nous nourrit, qui nous prend soin de nous, qui nous bichonne, qui nous sauve, qui nous restaure, qui nous lave, qui nous purifie, Seigneur, et que nous sommes dans ta bonne main. Merci, Seigneur, d'accomplir ce désir pour notre Église, que nous ayons des relations entre hommes et femmes qui soient vraiment harmonieuses, épanouies, belles, Seigneur, et que nous prenions du plaisir dans la communion fraternelle entre frères et sœurs. Merci Seigneur de ce que cela est possible, et merci pour ta parole qui nous donne tellement de destruction de modèles, et ton esprit qui agit en nous. Bénis Seigneur mes frères et sœurs maintenant et pour la suite. Bénis nos foyers, Seigneur. C'est pas toujours dans les foyers ce qu'on voudrait que ce soit, mais Seigneur, tu es là et tu es avec nous. Et merci, merci de cela, Seigneur. Fais-nous grandir dans le nom de Jésus. Amen. Amen.